Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean-Guilain Meige. C'est donc parti pour l'examen parlementaire de la loi Macron. Le texte du ministre de l'Économie est en discussion depuis ce lundi à l'Assemblée nationale. Texte déjà largement commenté, à propos duquel tout semble avoir déjà été dit, qu'il s'agisse du travail du dimanche ou de l'accès aux professions réglementées. Sauf que la loi présentée en Conseil des ministres n'est plus tout à fait la même depuis son passage en commission. Passager clandestin, un amendement a été adopté il y a 8 jours, dans une belle unanimité droite-gauche, sans que cela fasse beaucoup de bruit pour l'instant. Normal, après tout, il s'agit d'introduire dans le droit français la notion de secret des affaires. Le secret des affaires, c'est la possibilité pour une entreprise d'aller en justice dès lors qu'une information qu'elle considère comme devant rester confidentielle, car revêtant une valeur économique, aura été révélée sans son autorisation. Une façon de lutter contre l'espionnage économique à l'aide d'un arsenal juridique qui se veut dissuasif, jusqu'à 3 ans de prison pour les contrevenants. Si une telle disposition était demandée depuis longtemps par le monde des affaires, son adoption pose un certain nombre de problèmes s'agissant de la liberté d'informer. Les journalistes et les lanceurs d'alerte oseront-ils divulguer des informations susceptibles de les conduire devant des tribunaux ? Légiférer sur cette question est d'ailleurs d'autant plus paradoxal que François Hollande vient de promettre pour les prochains mois une loi sur la transparence de la vie économique. Alors, secret des affaires, de quoi les entreprises ont-elles peur ? C'est notre sujet du jour. 3 invités pour discuter de cette question. Alain Juillet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Club des directeurs de sécurité des entreprises, ancien haut responsable chargé de l'intelligence économique. Aujourd'hui, c'est la délégation interministérielle de l'intelligence économique. Vous êtes un ancien de la DGSE. Vous avez dirigé plusieurs entreprises. On peut en citer une ou deux.
Moi, j'ai commencé chez Ricard, à la société Ricard, le groupe Pernod Ricard. J'ai été à l'Union Laitière Normande, j'ai été à Jacob Suchard, j'ai été à Marks & Spencer, j'ai été chez le groupe Andros, donc j'en ai fait pas mal.
Ouais. Ouais, ça fait plus qu'une ou deux, ça fait un paquet. Oui. Pour discuter avec vous ce soir, Martine Orange, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Mediapart, après être passé par l'usine Nouvelle, Le Monde et La Tribune. Vous êtes une journaliste d'investigation économique. Vous avez publié un article il y a quelques jours de cela intitulé « Secret des affaires, journaliste et lanceur d'alerte risque d'être réduit au silence ». Notre troisième invité, c'est Florent Vadillot. Bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des questions de renseignement. Vous êtes collaborateur parlementaire du député socialiste Jean-Jacques Urvoas, auteur de la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires. Proposition de loi qui avait été déposée en juillet dernier. Vous aviez signé en 2012 avec Jean-Jacques Urvoas, Florent Vadillot, une tribune dans Le Monde. C'était à propos d'une précédente proposition de loi, mais qui portait là aussi sur le secret des affaires. Cette proposition de loi s'intitulait « La loi sur le secret des affaires est un pansement sur une jambe de bois ». Vous nous direz pourquoi cette proposition-là ne vous plaisait pas et pourquoi celle d'aujourd'hui, sans doute, vous satisfait davantage. Alors, il faut, avant de commencer peut-être le débat, faire un petit peu la pédagogie de cette loi et essayer de comprendre quelles sont finalement les informations susceptibles d'être protégées par ce secret des affaires. Florent Vadillot, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui ne relève pas de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a déjà donc protégé par la loi, peut faire l'objet d'une protection par le secret des affaires ?
Pas tout, non, parce que c'est le secret des affaires, c'est ce que j'appelle un droit interstitiel. C'est-à-dire que là où il y a une lacune du droit, soit le droit de la propriété intellectuelle, soit le droit pénal parfois, soit le reste du code du commerce, et lorsque, et c'est les deux critères sont cumulatifs, l'information a une valeur économique parce qu'elle est secrète, et il faut insister là-dessus, eh bien c'est uniquement cela que le secret des affaires va couvrir. C'est en quelque sorte le patrimoine stratégique des entreprises qui ne peut de toute façon pas être mis sur la place publique, mais qui peut faire aujourd'hui l'objet d'un pillage sans que des sanctions puissent être prises par les tribunaux français contre ceux qui ont pillé.
Alors Alain Juillet, qu'est-ce qu'on peut mettre, pour donner des exemples un peu concrets, dans ce patrimoine stratégique ? Quelles sont les informations, vous qui êtes un ancien dirigeant d'entreprise, que vous auriez pu faire inscrire dans cette protection du secret des affaires ?
Par exemple, les recettes des produits. la recette d'un produit, le savoir-faire autour de la recette d'un produit. Bon, c'est quelque chose qui est du patrimoine même de l'entreprise. C'est dans le patrimoine immatériel, mais ça appartient à l'entreprise.
Par exemple, je suis propriétaire d'une grande marque de soda, je peux faire valoir le secret
Coca-Cola,
des affaires.
Coca-Cola, si la recette du 7S, qui est le liquide, si le concentré qu'on mélange avec le reste, si cette recette est connue, bah, tout le monde peut faire du Coca-Cola. Donc on voit bien que ça a une véritable valeur. D'ailleurs, ça fait 100 ans qu'il le protège. Bon, seulement la différence, c'est qu'aux États-Unis, tout est extrêmement protégé, comme en Angleterre, hein, alors que chez nous, très, très paradoxalement et très curieusement, depuis toujours, tout ce qui concerne le militaire, donc la défense, si vous voulez, est protégé. Il y a des règles, secret défense. Hein, et par contre, il n'y a aucune règle qui protège les entreprises autres que la défense.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, donc, une grande entreprise de soda américaine a les moyens de protéger ses recettes et de faire valoir le secret des affaires, et qu'une entreprise française, alors vous évoquiez tout à l'heure votre passage à Ricard, je sais qu'il y a notamment, je crois, des jus de fruits, par exemple, hein, qui font voir la recette de cet apéritif anisé. Ouais. Une entreprise comme celle-là n'a pas les moyens de se défendre en justice si sa recette est volée par un concurrent.
Il y a une expérience qui a été faite, qui a ouvert les yeux de beaucoup de monde, ça a été l'aventure de Michelin. Un collaborateur, un cadre de Michelin, décide de partir. Très bien. Il part en piquant, il n'y a pas d'autre terme, en détournant avec lui un dossier. C'est le dossier le plus secret de Michelin. C'est le nouveau pneu. Je vous parle de ça il y a 4-5 ans. Hein, le nouveau pneu qui allait révolutionner le problème du pneu parce qu'il durait plus longtemps, plus économique. Enfin, il y avait beaucoup d'avantages. Le type va vendre ce pneu à Bridgestone, donc au concurrent numéro 1 de Michelin. Qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez... Les gens de Bridgestone, c'était tellement énorme, que c'est le plus gros secret de Michelin, qui disent que ce n'est pas possible. C'est un montage qu'a fait Michelin pour nous faire tomber.
Et ils avertissent Michelin.
Donc ils avertissent Michelin.
Bon, ben Michelin... Il n'y a pas besoin de secret des affaires si la concurrence fait le travail.
Attendez, c'est la suite qui est importante. Ils préviennent Michelin. Michelin d'abord ne voulait pas y croire, et puis comme il a les preuves, il se rend compte qu'il s'est fait avoir. Bon, on lance à ce moment-là, la police, il porte plainte, il y a une instruction qui est faite, on retrouve le type et on le ramène en France et il est jugé. À quoi croyez-vous que ce type a été condamné alors qu'il demandait 50 millions à Bridgestone pour fournir le dossier, hein, et qu'il avait donc piraté ce qui était le plus secret chez Michelin?
Il se trouve que j'ai la décision sous les yeux. Pour abus de confiance, 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.
Pour 50 millions de risques, vous ne croyez pas que ça vaut le coup dans toutes les entreprises françaises? C'est bien là pour moi qu'il y a une faille. C'est évident. Là, voilà la faille.
Donc ça sert, Florent Vadillo, à renforcer la protection des entreprises françaises. Est-ce qu'on peut dire que toute information qui n'est pas rendue publique donc par une entreprise peut relever du secret des affaires?
À nouveau, non. Il faut que cette information elle ait une valeur économique. Elle ne peut pas être couverte par le secret des affaires si elle n'a pas une valeur économique du fait de son caractère secret. Par exemple, ce que décrivait Alain Juillet, ce sont des informations qui ne sont pas encore brevetables. Il y a une lacune du droit, mais ces informations ont de la valeur économique, il faut pouvoir les protéger.
Alors, si j'insiste sur cette question, c'est aussi pour que ce soit bien clair, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprécisions, en tout cas de flou sur cette question et sur cette proposition de loi. Martine Orange, il faut qu'une information ait une valeur économique, mais a priori, toute information qui a une valeur économique est susceptible justement d'être révélée par un journaliste économique.
Il y a beaucoup d'informations qui ont des valeurs économiques, je ne connais pas beaucoup qui n'en ont pas.
Du fait de leur caractère secret.
Du fait de leur caractère secret, si je prépare un plan social dans une entreprise, est-ce que ça a une valeur économique? Oui, ne serait-ce que sur les marchés boursiers. Après, je m'étonne quand même parce que un peu, vous dites, d'accord, vous parlez de Michelin. D'ailleurs, en général, on nous oppose toujours les deux mêmes affaires, l'affaire Valeo, l'affaire Michelin. On oublie d'ailleurs l'espionnage chez Renault parce que ça, c'est plus compliqué à mentionner.
Oui, parce que voilà, les personnes qui étaient incriminées. Ce n'était pas vraiment coupable.
C'était pas de l'espionnage industriel, c'était un montage, etc. Mais quand même, vous étonnez que la sentence était clémente. C'est la justice qui a décidé de ça. C'est bon. Et donc là-dessus, c'est pas demain parce qu'il y aura un droit plus précis que la justice et les tribunaux ne prendront pas les mêmes décisions. J'ajouterais quand même, il y a quand même déjà une législation sur le vol, une législation sur la contrefaçon, une législation sur la protection des brevets, une législation sur l'intrusion dans les systèmes informatiques, une législation sur la propriété intellectuelle. Où ils sont où les manques vraiment? Ils sont parce que on a du mal à cerner quel est votre champ est si large qu'on a du mal à cerner de quoi on parle.
Alors Florent Vadillo, ensuite Alain Juillet.
D'abord, je pense qu'il faut revenir sur un point qui, à mes yeux, est très grave, parce que ça flirte la désinformation. Sur le plan social, par exemple, je suis désolé, la loi impose de prévenir d'un plan social dans des délais prévus par la loi. Or, le secret des affaires s'applique à droit constant. Ça veut dire que toutes les dispositions législatives existantes, et c'est le cas pour les plans sociaux, seront applicables. Donc, on ne peut pas dire cela parce que c'est justement prendre le mauvais exemple pour discréditer le secret des affaires. Je vais vous prendre, vous citez Michelin, etc., les grandes entreprises. Je prends un exemple d'entreprise, justement, qu'on ne cite pas parce qu'elle n'est pas connue. C'est une PME dans le sud de la France qui fabrique du papier pour emballer les fromages. Vous voyez, ça n'a rien d'extrêmement glamour. Cette PME, elle vend. Elle fait à peu près 5 millions à l'export chaque année. Et il se trouve qu'elle passe un accord avec une firme australienne qui a besoin de ce papier-là. Eh bien, la firme australienne l'aide à développer un nouveau papier plus résistant, qui résiste à la chaleur, etc. Et la société se fait dépouiller des informations parce qu'elle n'avait pas encore breveté ces informations-là. Voilà, c'est un exemple. Ça n'est pas une grande société. C'est une PME qui fabrique du papier d'emballage de fromage et qui a été victime d'une lacune du droit. Et je pourrais prendre toutes les lacunes du droit que vous avez citées sur la contrefaçon, sur le brevet, sur le système de traitement automatisé des données, sur le vol. Toutes ces législations-là ont des lacunes juridiques, soit liées à la jurisprudence, soit liées à l'applicabilité. Et le vol, par exemple, ne prend pas en compte les choses immatérielles. Voilà. Donc le secret des affaires prend en compte les choses immatérielles.
Martine Orange, je voulais réagir à la question de l'information des salariés. Ensuite, je vous donne la parole à l'ingénieur.
Vous dites que en mars 2014, il y a un site toulousain qui s'est fait condamner justement pour violation de choses, puisqu'il avait publié un plan social d'un tour opérateur qui s'appelait TUI, et justement il l'avait publié avant. Donc on se dit quand même que là déjà il y a eu une condamnation quand même.
Alain Juillet, loi, elle offre des garanties suffisamment claires aujourd'hui pour se dire, voilà, ce genre de dérive et ce genre de risque évoqué, alors pas seulement par Martine Orange dans Mediapart, mais il y a aussi Europe Écologie Les Verts, il y a aussi une organisation comme Transparency International, il y a d'autres aussi journaux.
On sait d'où ils viennent. Attendez, on sait d'où ils viennent.
Ces réserves-là,
c'est le lobby américain. Attendez, il faut arrêter.
Alors, il y en a aussi j'ai lu aussi des réserves dans le Figaro ou dans le Monde, par exemple. Vous voyez, sur des journaux qui sont sur, on va dire, un échantillon assez différent politiquement. En tout cas, est-ce que la proposition de loi aujourd'hui, elle est suffisamment bien rédigée pour interdire et prévenir toute, irrégularité ou toute dérive?
Alors, vous avez. Là, vous touchez à un point qui me paraît effectivement très important. Parce que ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que c'est la troisième essai sur le secret des affaires. Moi-même, quand j'étais haut responsable à l'intelligence économique, en 2005, on a sorti un décret sur les investissements étrangers, sur les domaines qui étaient des domaines régaliens, considérés par le traité de Rome, comme les domaines dans lesquels l'État pouvait statuer. Et dans lesquels on demandait que toute opération de prise de contrôle, partiel ou total, fasse l'objet d'une présentation auprès du ministère des Finances français. Bon, à l'époque, on s'est tous fait attaquer en disant c'est un scandale, protectionnisme. Bon, moi, ce que je vois, c'est que 10 ans après, pratiquement tous les pays européens ont adopté ce décret qui, au départ, sur lequel on avait été attaqué. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin pour se protéger d'opérations de prise de contrôle qui se terminaient par le licenciement du personnel en France. Parce qu'il ne faut pas oublier dans toutes ces histoires qu'au-delà des grandes idées, il y a la réalité. La réalité du terrain, c'est que chaque fois qu'une entreprise est pénalisée dans son développement, c'est l'emploi qui trinque. Et on est dans un pays où, excusez-moi, mais l'emploi, c'est prioritaire.
Donc on pourrait dire que c'est une loi de patriotisme économique ?
D'une certaine manière, on peut considérer ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas que ça. Si vous voulez, je vous parlais du décret. Mais derrière, il y a eu deux tentatives. C'est la troisième. pour faire une loi sur le secret des affaires.
Il y a une proposition de loi de Bernard Carayon qui appartenait à l'ancienne majorité.
Il y avait une première proposition
que vous avez évoquée,
qui a été faite. Après, il y a une proposition par Bernard Carayon et il y a maintenant cette troisième. Qu'est-ce qui s'était passé les deux fois précédentes? On a eu un problème parce que le Conseil d'État, avec les deux fois, le Conseil d'État a dit attention, il y a, et je reprends ce que disait tout à l'heure Madame Orange, il y a dans cette loi des choses imprécises qui font que ça pourrait mettre en danger des lois qui, elles, ne peuvent pas être rediscutées car elles font partie de l'arsenal législatif de la République. Donc, il y a eu deux fois de suite, et la loi Carayon est restée bloquée à la Commission des lois pour cette raison-là. Bon, à la suite de ça, il y a eu un troisième travail qui a été fait par un certain nombre de juristes et un travail interministériel pour faire une loi qui respecte justement tous ces éléments. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on voit les attaques qui sont faites contre cette loi à travers les lanceurs d'alerte, à travers les journalistes, et rarement sur le fond, parce que sur le fond, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose à dire, on peut se poser des questions parce qu'en définitive, il faut peut-être revenir à l'essentiel. Moi, la loi, comme on vous l'a dit, protège, permet aux journalistes de faire totalement leur travail. Et quant aux lanceurs d'alerte, c'est exactement pareil, dans le respect des lois qu'ils doivent eux aussi respecter. Parce qu'en France comme ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
Bon alors, Martine Orange, est-ce qu'on peut dire que cette proposition de loi, malgré tout, est un peu meilleure que la précédente?
C'est exactement à peu près dans les mêmes termes. De toute façon, c'est les mêmes peines, c'est à peu près les mêmes champs. Moi, j'aurais quand même une question à vous poser. D'abord, pourquoi passer par un cavalier législatif dans une loi Macron qui est déjà submergée de choses comme ça et par un amendement, alors que si c'est un texte si important, pourquoi ne pas le présenter en bonne et due forme plutôt que sous une forme comme ça? Et la deuxième question, c'est quand même, il y a une discussion en ce moment au Parlement européen d'une directive européenne sur le secret des affaires. Et donc, à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas attendre cette directive européenne qui donnerait un cadre légal absolument dans toute l'Europe et qui ferait, et avec une transposition française de cette directive où à partir de ce moment-là, on se dit que tout le monde sera à peu près à armes égales. Où est l'urgence pour passer par un cavalier législatif et passer avant la directive européenne?
Madame, comment pouvez-vous penser une seconde que ceux qui ont travaillé sur cette loi n'ont pas travaillé en liaison étroite avec Bruxelles? Enfin, soyons sérieux.
Pourquoi ne pas attendre la directive?
Vous savez très bien, les lois européennes s'imposent sur le territoire national, que ça nous plaise ou pas. C'est comme ça. Bon, donc on ne peut pas envisager de faire une loi en France, quelle qu'elle soit, qui serait contraire aux lois européennes. Donc il est évident qu'il y a
un travail
entre les deux.
Donc il faudra peut-être modifier cette proposition de loi pour tenir compte de la prochaine directive européenne.
Évidemment, tout a été adapté par rapport à ce qui a été... Donc la loi qui va sortir sur l'Europe, il n'y aura aucun problème. La loi française est totalement compatible avec la loi européenne telle que le texte est en train d'être présenté. C'est aussi simple que ça.
Et sur la méthode d'utiliser ce cavalier législatif que vous évoquez, Martine Orange, puisqu'on a le collaborateur parlementaire de Jean-Jacques Urvoas, c'est vrai que si cette question est à ce point importante pour le monde des affaires, Florent Vadillo, on a du mal à comprendre que cet amendement qui n'était pas prévu au départ dans la loi Macron soit inséré de manière, on va dire, discrète, c'est moins qu'on puisse dire, dans cette loi, au risque justement de ne pas avoir un véritable débat sur le sujet. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a un débat important sur ce thème. S'il y a des craintes, il faut bien que politiquement, on puisse aussi y répondre et pas simplement dire à ceux qui expriment ces craintes, bah, vous n'avez rien compris au sujet et passez votre chemin.
Non, mais beaucoup de choses ont été évoquées. D'abord, le terme de cavalier législatif, ça n'est pas un terme qu'on utilise comme ça. C'est en général, c'est parce que il a été censuré pour être un cavalier législatif. Ça s'appelle, et typiquement, c'est un amendement. Il n'est pas passé en catimini.
C'est un amendement qui a valeur de loi. Enfin, c'est une petite loi quand même. Non, mais dire, c'est que voilà, c'est un amendement qui aurait pu faire l'objet d'une loi.
Je suis désolé. Il y a un acquis majeur de la Révolution française, c'est la publicité des débats. Tous les débats ont été publics. Lorsque la proposition de loi a été déposée le 16 juillet 2014, tout le monde pouvait y accéder. Elle était en libre accès et surtout, elle a fait l'objet de nombreuses sorties médiatiques, écrites, etc. Personne ne s'est manifesté. Concernant la loi Macron, excusez-moi, quel est le titre de la loi Macron ? Loi pour la croissance et l'activité. Le secret des affaires correspond pleinement à cela. Oui. Il s'agit ni plus ni moins que de permettre la croissance des entreprises et de protéger leur activité. Pas la protéger contre les journalistes ou contre les lanceurs d'alerte, pas la protéger contre une dévocation qui serait de masquer des turpitudes, des montages fiscaux, etc. Ça n'est pas vrai, puisque ce ne sont que des informations qui doivent servir à la croissance de l'entreprise. Bon, après, je voulais quand même revenir sur un point que disait Madame Orange. Je l'ai lu. Je lis vos articles, madame, et j'ai lu l'article que vous aviez consacré à la loi de Bernard Carayon et à la proposition de loi Urvoas. Si vous dites aujourd'hui au micro que ce sont les mêmes lois, pardonnez-moi, mais si vous voulez, on peut faire un petit jeu des sept erreurs. Il y en aura plus. D'abord parce que la loi Carayon...
Oui, parce que alors, pour vous, manifestement, elle est différente. Alors, permettez-moi juste à Florent Vadillo, parce que je trouvais intéressant que vous ayez écrit, donc je rappelle avec Jean-Jacques Urvoas, c'était en février 2012, sur cette proposition de loi de Bernard Carayon. Et parmi les nombreuses réserves que vous émettiez...
Parmi les principales, sur la liberté de la presse et la liberté syndicale.
Voilà, comment ignorer qu'elle mette en place cette proposition de loi des conditions potentiellement attentatoires à la liberté de la presse, car en sanctionnant la divulgation de secrets des affaires, un journaliste pourra être poursuivi, non pour complicité de divulgation, mais pour divulgation.
Exactement.
Alors, quels sont, disons, les garde-fous qui existent aujourd'hui dans la proposition de loi qui permettent de dire les journalistes pourront continuer de faire leur travail ?
Merci, merci d'avoir cité cela, parce que c'est pour moi la divergence majeure entre le projet Carayon et le projet actuel. Dans au moins quatre dispositions du secret des affaires actuel, quatre dispositions cumulatives prévoient des protections pour les journalistes. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de la légistique, mais enfin, on a dans la part, parce que cette proposition de loi, c'est du civil et du pénal. Dans le civil, il est écrit que tout ce qui est nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt supérieur, c'est-à-dire la notion la plus vaste qui soit interprétée de manière libérale par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de cassation. Mais pour justement montrer que ce côté vaste est au bénéfice des journalistes, tel que l'exercice légitime de la liberté d'expression ou d'information ou la révélation d'un acte illégal. Premier élément. Deuxième élément, dans la partie pénale, une exemption pour tous les cas où la loi autorise ou impose la révélation du secret. Quels sont ces cas ? La loi de 2007 contre la corruption, la loi de 2011 pour le renforcement de la sécurité des médicaments et des produits de santé, les trois lois de 2013, avril, octobre et décembre, pour la protection des lanceurs d'alerte dans la matière environnementale, pour la transparence de la vie publique et pour la lutte contre la fraude fiscale. Cinq lois qui sont rappelées alors que ça n'était pas nécessaire en droit, cinq lois qui sont rappelées pour précisément dire il y a des exemptions au secret des affaires, jamais la liberté d'expression, jamais l'activité des lanceurs d'alerte ne pourra être entravée par le secret des affaires, ça n'est pas son objet.
Vous voilà rassurée, Martine Orange ?
Non, parce que je veux dire, l'exercice à la fois des lanceurs d'alerte et en plus des journalistes, c'est pas seulement dénoncer des pratiques qui sont répréhensibles par la loi, telles que l'évasion fiscale ou les choses comme ça, mais c'est aussi, il y a aussi tout un travail qui est de divulgation de projets, il y a aussi d'explications de ce qui se passe dans une entreprise, des choses comme ça, et ça fait pas... Jusqu'où ça s'arrête ?
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
L'affaire du Mediator, ce médicament utilisé très souvent comme coupe-faim, aurait entraîné la mort de plusieurs centaines de personnes. Hier, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, annonçait une prise en charge intégrale par l'assurance maladie de tous ceux qui ont eu recours à ce produit. Ce matin, le quotidien Le Parisien Aujourd'hui en France faisait état d'une note adressée par le directeur général de la CNAM à toutes les caisses primaires. Il leur aurait demandé d'instaurer une veille juridique sur le Mediator afin de mettre le fabricant Servier devant ses responsabilités, notamment financières.
Voilà, extrait d'un journal de France Inter du 25 décembre 2010 sur cette affaire Mediator. Pourquoi avoir choisi cet extrait ? Alors vous allez me dire peut-être, et Alain Juillet et Florent Vadillo, qu'on vous a mal écouté, mais c'est vrai que dans un certain nombre d'articles, voire de réactions à cette proposition de loi sur le secret des affaires, est mentionné l'affaire du Mediator en disant « si la loi sur le secret des affaires avait existé, cette affaire n'aurait peut-être pas été révélée », Alain Juillet.
Vous savez, avec des peut-être, on fait tuer les gens.
Avec le Mediator aussi.
Mais attendez. C'est facile de dire on n'aurait peut-être pas. Non, avec la loi actuelle, ça serait sorti. Parce que la personne qui a fait ça, la jeune femme, le médecin, qui a fait l'enquête sur l'affaire, ce n'est pas les journalistes qui ont sorti l'affaire, c'est un médecin. Et ce médecin,
c'était
une femme,
Frachon, voilà, on peut la citer.
Hein. Ah oui. Eh ben, ce médecin, elle aurait fait exactement la même chose. Elle était un lanceur d'alerte. Elle aurait, selon la loi, elle aurait pu communiquer exactement pareil. Et derrière, les journalistes auraient pu faire leur boulot exactement pareil. Donc justement. Justement, ce qu'il y a, c'est que...
Il n'y a pas le moindre risque d'autocensure, par exemple, c'est-à-dire, sachant qu'il y a une loi sur le secret des affaires qui peut être sanctionnée, donc, de peine allant jusqu'à 3 ans de prison, l'amende, dites-moi peut-être, à combien on en...
75 000 euros d'amende.
75 000 euros d'amende. 375 000 euros d'amende, voilà. Et ça peut doubler si c'est l'intérêt stratégique du pays qui est en cause. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des formes d'autocensure, de gens qui ne seront peut-être pas suffisamment bien informés sur ce qu'il y a dans cette loi, et qui vont se dire, moi, je ne vais pas prendre ce risque d'être poursuivi en justice et peut-être même d'aller en prison parce que j'aurais révélé des informations que je n'aurais pas dû révéler.
Alors en somme, il faut tout laisser faire. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. Il faut tout laisser faire. Il faut amener les gens au suicide en disant n'importe quoi. Comme ça, c'est passé pour un lanceur d'alerte.
Je ne comprends pas très bien. Alors attendez, en quoi on amène les gens au suicide en leur disant...
Ben, vous lancez une alerte.
Oui.
Elle est justifiée ou pas justifiée ? Vous venez de me dire, ah mais si on n'est pas sûr de soi, on hésite. Moi je vous dis, c'est à ce moment-là, le lanceur d'alerte, il va lancer un bruit sur quelqu'un. Cette personne, parce qu'on croit hein, ce qui a été dit par le lanceur d'alerte, va être totalement déstabilisé, va se suicider. C'est arrivé avec un instituteur. Qui en a parlé dans la presse après ? Personne. Tout le monde avait parlé que ce type, on le traitait de pédophile. Il s'est suicidé, déshonoré, personne n'en a parlé. Ça aussi, c'est les limites du lanceur d'alerte. Donc, moi, je crois au contraire, il faut que la loi permette...
Enfin, dans vos propos, vous êtes assez suspicieux sur l'intérêt des lanceurs d'alerte, quand même. Enfin, voilà,
vous retournez aussi le propos. Mais oui, non, je ne retourne pas la question. Je dis attention. Un lanceur d'alerte, c'est dans nos pays démocratiques, c'est une excellente chose. Bon, il faut surtout pas l'arrêter. Simplement... Et je pense que la loi qui se prépare sur les lanceurs d'alerte le précisera. Il faut que si ce lanceur d'alerte lance une fausse nouvelle, il faut que quelqu'un en assume les conséquences. Parce que c'est trop facile de déstabiliser une entreprise ou un individu alors qu'il n'y a rien derrière. Très grave, si vous voulez ce que je vous dis. Mais les journalistes le savent bien. Quand ils essaient de recouper leurs informations, c'est pourquoi ? C'est pour ne pas dire n'importe quoi. Ne pas être victime d'une manipulation. Or, le lanceur d'alerte n'a pas la déontologie du journaliste, en général.
Martine Orange ?
En général, c'est le travail, le lanceur d'alerte, pour qu'il soit écouté et repris. La presse, normalement, vérifie ce qu'il y a derrière.
Ah ben, c'est ce que je vous dis.
Et regardez, sans les lanceurs d'alerte du BS, on n'aurait jamais mis à jour l'évasion fiscale menée à une dimension industrielle du BS en France.
Non, mais attendez, monsieur. Écoutez, madame. Non, attendez. Moi, je suis d'accord sur ça. Mais vous prenez l'exemple du BS, c'est un excellent exemple pour moi. Parce que d'un côté, il y a un scandale contre lequel il fallait se battre, c'est les évasions fiscales françaises vers la Suisse.
Donc, il fallait dénoncer.
Mais bien sûr.
Ça relève
problème,
pas du secret d'affaires.
C'est que le lanceur d'alerte en question, avant d'être en France, il a essayé de vendre ça contre de l'argent.
Vous confondez CHSBC.
Ah, c'est HSBC, excusez-moi. Il y en a, c'est le même chose, c'est aussi un lanceur d'alerte, excusez-moi.
Oui, absolument. Hein,
bon,
absolument.
Eh bien, le lanceur d'alerte HSBC, il est allé au Liban et il a essayé de vendre ses listes à des gens. Bon, moi, qu'on ne me dise pas que c'est moral. Donc, je pense, moi, je suis pour les lanceurs d'alerte, qu'on soit bien clair là-dessus, qu'il n'y ait pas le moindre doute. Mais je dis simplement, attention, il faut que ça reste là aussi dans un cadre, comme les journalistes ont des règles qu'ils s'appliquent. Et moi, je ne vais pas leur dire les règles qui doivent s'appliquer, parce que je sais qu'ils se les appliquent eux-mêmes.
Allons peut-être au-delà de la question des lanceurs d'alerte, hein, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission là-dessus. Florent Vadier, je voudrais citer, alors vous allez me dire que je prends beaucoup de mes sources à Mediapart, hein, mais il se trouve que en matière d'investigation économique, voilà. Il n'y a pas énormément non plus d'organes de presse qui font de la véritable investigation. Je vais citer un autre journaliste de Mediapart, c'est Laurent Mauduit, qui dit, alors effectivement, il y a des informations qu'on a besoin de révéler parce qu'elles sont illégales, ou en tout cas, on révèle des scandales. Mais il y a aussi beaucoup d'informations, écrit-il, qui sont à l'évidence d'intérêt public, tout en portant sur des faits qui ne sont entachés d'aucune illégalité, mais que la direction d'une entreprise souhaite cacher, Florent Vadillo. Comment on gère ça ?
Mais attendez,
vous
n'entendrez jamais dans ma bouche l'idée qu'il faut brider la capacité des lanceurs d'alerte de révéler des choses qui heurtent
la loi,
la morale et pour la même chose pour les journalistes. La même chose. C'est pour cela que ça s'appelle en droit soit la liberté d'expression, soit la liberté d'information.
Alors, je vais prendre juste un exemple concret.
Je voudrais quand même dire que ces cas-là sont prévus comme des exemptions au secret d'affaires. D'accord.
C'est vrai qu'on est un peu obligé de répéter les choses ce soir parce que ça mérite vraiment de nombreux éclaircissements. Alors, imaginons, je suis journaliste à Radio France. Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, considère que l'organigramme, par exemple, de la maison de la radio doit rester secret parce qu'il y a des informations qui ont une valeur économique qui pourraient servir, si elles étaient imitées, à la concurrence, par exemple RTL ou Europa. Moi, je décide de révéler l'organigramme de la maison de la radio. Est-ce que mon PDG peut dire « Attention, ça faisait partie du secret des affaires, donc je porte plainte contre vous ». Florent Badillot.
Pardon, mais... je comprends ce que vous voulez dire, mais si...
Et en même temps, je ne révèle pas un scandale, si vous voulez. Je ne vais pas révéler un scandale, vous voyez, qui relèverait justement
pénal. Mais puisqu'on est dans un cas fictif, qu'est-ce qui vous a poussé à révéler cet organigramme? Parce que vous considériez qu'il ne devait pas être, secret.
Oui, je considère que ça ne doit pas être secret, oui. Je considère qu'il n'y a pas de raison de le garder secret, mais il y a peut-être d'autres points de vue.
Sur ce point-là, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est nourrie par plus de 50 décisions, est unanime. La liberté d'expression, le droit à l'information, prévalent sur toute autre considération législative. Et je rappelle que dans la hiérarchie des normes, désolé d'être un peu technique, mais dans la hiérarchie des normes, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit que la liberté d'expression absolue, notamment pour les journalistes, aura toujours une valeur supérieure à toute disposition législative adoptée. Et si une disposition ne devait pas être conforme à la CEDH, elle serait censurée par la Cour de cassation dans l'ordre d'un contentieux pour manque de conventionnalité. Donc là-dessus, je n'ai aucun doute sur la question. Aucun doute.
Je vais pouvoir révéler l'organigramme qui n'est pas secret d'ailleurs.
Manifestement, il y a certains députés qui se posent aussi des questions et qui estiment que la façon dont la liberté de la presse est protégée n'est pas suffisante dans la loi telle qu'elle est rédigée. Plusieurs députés ont déposé deux amendements. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut les voter, pas les voter?
Les amendements que vous évoquez, Martine Orange, est-ce qu'il s'agit de la proposition de modifier le code de procédure pénale pour demander un huis clos en matière correctionnelle? Est-ce qu'il y a celui-là?
Non, c'est pas celui-là. C'était juste sur la protection renforcée de la liberté de la presse et d'information, et où il y a eu un amendement qui a été déposé en priorité par Karine Berger et un deuxième qui est amendement sur le même sujet déposé par Yann Gallu. Je m'excuse, je m'en souviens plus exactement de l'intitulé, mais l'idée est la même, c'est-à-dire protéger, prendre une expression écrite dans la loi puisque eux aussi ont le sentiment que ce n'était pas suffisamment explicite. Que pensez-vous de ces amendements ?
Alain Juillet.
Je pense que...
Ça ne coûte rien de les voter.
Ah non, c'est pas du tout pareil, parce que vous pouvez transformer une loi en changeant une virgule ou un mot. Quand, par exemple, Michel Rivasi, au Parlement européen, propose de mettre dans le texte européen le mot non éthique, comment vous définissez sur le plan juridique le mot non éthique? C'est indéfinissable. Donc en mettant ça, vous rendez la loi inopérante. Eh bien, pour moi, les textes, les amendements, mais ça c'est mon interprétation personnelle, les deux amendements qui sont déposés visent en définitive à empêcher l'application de la loi.
C'est aussi votre lecture, Florent Badillot ?
Non, je ne veux pas me prononcer sur ce que feront les députés, puisque je ne suis pas là pour porter la parole de quiconque, mais le choix des termes qui a été fait dans la version initiale était vaste, précisément pour offrir une protection maximale. En prenant le concept d'intérêt supérieur général, on ne peut pas aller plus loin. Bon. Donc, on pensait vraiment que là, normalement, avec une notion comme cela, on couvre tout. S'il faut préciser, pourquoi pas? Néanmoins, j'attire votre attention sur un petit problème de droit qui s'appelle le risque de raisonnement a contrario. Si l'on fait une liste,
tout ce qui ne sera pas dans la liste pourra être exclu dans la jurisprudence. C'est tout l'intérêt d'avoir des notions très larges lorsqu'elles sont protectrices.
Donc vous voulez dire qu'à trop vouloir protéger, on pourrait finalement faiblir.
C'est un vrai risque de raisonnement à contrario. D'où l'intérêt d'employer des notions, lorsqu'elles sont protectrices, hein, que les choses soient claires, larges, et de préciser notamment la liberté d'expression, le droit de l'information et la révélation d'actes illégaux. Parce que je tiens à dire que dans la liberté d'information, il y a la liberté syndicale. Donc,
ne l'oublions pas.
Martine Orange.
Dans les termes, dans les amendements tels qu'ils ont été déposés dans mon souvenir, il n'y a aucune liste précise. C'est juste une définition plus précise des métiers de la liberté d'expression, de la liberté syndicale, de la liberté d'information, protection des lanceurs d'alerte, parce que il y a un lanceur d'alerte, tout le monde peut devenir un moment dans sa vie lanceur d'alerte.
Il n'y
a pas un statut de lanceur d'alerte.
Non, c'est souhaitable.
Donc, à partir de ce moment-là, ces députés ont eu le sentiment que telle que était donnée la définition, elle était insuffisante. Donc, je ne comprends pas pourquoi, en votant ces amendements, on changerait complètement le caractère de la loi. Parce que
Je me suis pas exprimé, que les choses soient claires, hein, sur les amendements précisément, parce que j'ai un devoir de réserve là-dessus.
Non, c'est moi qui parle.
Ce que je tiens à dire néanmoins, c'est que l'avantage d'employer des notions large, c'est qu'on est sûr de n'exclure aucun cas. Et je ne connais pas de notion plus large que les intérêts supérieurs généraux et la liberté d'expression ou d'information. Je n'en connais pas.
Voilà, il y avait deux amendements que je voulais évoquer, mais on ne va sans doute pas avoir le temps. Alors, il y avait celui qui propose donc de modifier le code de procédure pénale pour demander un huis clos en matière correctionnelle lorsqu'il y aurait une affaire, justement, de secret des affaires. Ce qui rend là aussi compliqué la relation, j'entends par là, la publicité journalistique de tel procès, même si on peut comprendre une forme de logique, c'est-à-dire si il y a violation du secret des affaires, on peut comprendre qu'en justice, on ait envie de garder ce secret. Puis il y a un autre amendement qui a été déposé par une députée socialiste qui, là, semble-t-il, ne sera pas votée, qui autorise les sociétés à demander la non-publicité de leurs comptes annuels afin de protéger les entreprises françaises.
C'est un vieux problème qui n'a rien à voir avec le reste.
C'est un amendement socialiste qui a été déposé il y a quelques jours.
Qui ne correspond pas au secret des affaires.
Mais ce n'est pas le secret des affaires. C'est encore autre chose. C'est une histoire qui date depuis des années. Bercy a voulu être en Europe le meilleur des ministères en exigeant que toutes les entreprises déposent leur bilan et leurs comptes annuels. Au greffe du tribunal de commerce, comme vous savez, et de là, c'est publié par tout le monde. Vous pouvez l'avoir comme vous voulez. Si vous allez en Angleterre aujourd'hui et que vous demandez le bilan d'une société, même que vous voulez racheter, vous risquez d'être poursuivi devant la justice anglaise pour violation du secret. Si vous allez aux États-Unis, c'est encore pire. Pourquoi ? Parce que des professionnels, à partir des éléments fournis dans le bilan, sont capables de vous démonter complètement la situation de l'entreprise. Donc, en définitive, vous vous mettez tout nu en donnant votre bilan et votre truc. Qu'est-ce qui a été demandé ? Il y a déjà, ça fait des années que ça dure. On dit, dans ces conditions-là, au moins, publions, puisque vous voulez l'avoir, publions le bilan, c'est-à-dire les quatre feuilles du bilan, mais ne publions pas les annexes, parce que c'est dans les annexes que les professionnels peuvent trouver les informations les plus intéressantes. Ça, c'est un vieux débat qui date depuis l'an 2000. Bon, et il n'est pas prêt d'être résolu.
On est bien d'accord, c'était pas du tout le secret des affaires. Ça, c'est la publicité des comptes. Sur le huis clos, il faut.
Ouais, facile de te faire la part des choses. Quand on n'est pas spécialiste de ces questions.
C'est-à-dire que les comptes ne pourront pas être protégés par le secret des affaires. Ce sont deux normes qui ne peuvent pas se superposer.
Et il semblerait que cet amendement de manière n'a aucune chance d'être voté.
Parce que c'est pas
du tout le secret des affaires. Je voulais simplement dire, pour le huis clos, il faut se méfier d'entreprises qui suscitent justement des procès pour obliger l'entreprise qui doit se défendre à révéler des secrets de fabrication, des secrets des affaires, etc. Donc, le huis clos, c'est pour permettre en réalité d'éviter des stratégies juridiques asymétriques, c'est-à-dire des gros qui attaquent des petits, et les petits, pour se défendre, sont obligés de se mettre nus.
Donc, pour éviter que finalement des entreprises se servent de cette loi sur le secret des affaires pour.
Au contraire, se servent de la justice pour obtenir des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir par ailleurs. Ça n'est pas la même chose.
Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour cette discussion. qui, je l'espère, aura éclairci un petit peu cette notion de secret des affaires. Alain Juillet, Florent Vadillo et Martine Orange, merci à tous les trois d'avoir mené cette discussion. On se retrouve demain à 18h20 pour une émission que nous avons intitulée « Sur qui peut compter Syriza en Europe ?».